Très bien. Par IM, à la limite, vous pouvez me dire s'il y a des gens qui n'ont pas d'abonnement Azure et qui sont encore en train de le créer, de façon à ce qu'on voit s'il faut qu'on les attende, ce sera avec plaisir. Ou si vous avez, ou si vous pensez, en cours, très bien. Parfait. Vincent et Samir. Déjà actif depuis un an, parfait. En parallèle, ce que vous pouvez faire pour vous avancer un peu sur la suite, je vais ouvrir une autre présentation pour le lab d'après, de façon à ce que les premiers puissent s'inscrire. En fait, pour le lab d'après, on a besoin d'un nom de domaine spécifique et comme je suppose que tout le monde n'a pas un nom de domaine à soi, je vous ai préparé des noms de domaine qui sont, et donc il y a un SkyDrive, enfin OneDrive, pardon, dans lequel vous pouvez aller réserver un nom de domaine. Donc j'ai créé une centaine de noms de domaine que j'ai mis sur mon domaine 34.fr. Ce que je vous propose, en fait, c'est que chacun mette son initiale devant un nom de domaine et retienne le numéro. Par exemple, là, Toto a réservé le 002. Moi, je vais faire la démonstration avec le 001. Et puis, du coup, si chacun effectivement crée bien les websites avec le bon numéro, etc., tout devrait bien se passer. Normalement, il y a une centaine de noms de domaine. On peut écrire à plusieurs dans Excel Online. Je ne sais pas jusqu'où monter plusieurs. Mais en tout cas, du coup, c'est peut-être une bonne chose de commencer dès maintenant à faire des réservations dessus. Si je l'ouvre là. Hop. Sur l'Excel Online, on va voir s'il y a eu quelques réservations. Donc normalement, vous devez pouvoir, vous allez ici et vous devez pouvoir aller ici taper votre nom ou mettez votre initiale ou peu importe ce que vous voulez. Par exemple, on voit que Marius est en train de réserver quelque chose dessus. Voilà, Marius a pris le numéro 10. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez réserver vos donc réservez-vous un numéro. Est-ce que quelqu'un a pris le 42? Je pensais que ce serait un des premiers qui
Ben oui, effectivement,
serait
c'est bizarre.
pris. Mais bon. Ah, voilà.
Ah
Non, 40. Donc voilà.
pourrait passer l'après-midi à regarder ça.
Ouais. Très bien. Impossible d'écrire. Alors normalement, ce qui est important, je vois que là, il y a quelqu'un qui a la possibilité d'écrire. Il faut pas y aller comme, il faut pas y aller depuis le OneDrive et ensuite, il faut prendre vraiment le lien que j'ai envoyé, le lien qui est écrit ici, qui lui donne un accès en lecture-écriture sur le tableau Excel. Si vous y allez par le OneDrive et que vous essayez d'ouvrir directement par ici, là, vous allez être en lecture seule. Le lien qui est là, lui donne un accès en lecture-écriture. Exactement, merci Benjamin. Donc c'est ce deuxième lien qu'il faut utiliser pour aller écrire ses initiales dans l'Excel. Parfait. Alors, alors, pareil avec le deuxième. Alors, si vous avez déjà un nom de domaine, à la limite, vous pouvez utiliser quand même celui-ci juste parce qu'en fait, je les ai préenregistrés dans le DNS. Du coup, il n'y a pas de latence au niveau DNS puisque j'ai déjà créé les associations. Vous pouvez essayer de le faire avec votre nom de domaine. Éventuellement, il y a juste un moment où il faudra attendre que le DNS se mette à jour, c'est tout. Donc ça, c'est faisable. Sur le fait que vous n'arrivez pas à écrire, c'est bizarre. Ce qu'on peut faire éventuellement, par exemple, Samir et
Il faut
Philippe.
bien cliquer sur Edit Workbook. Tiens. Une fois que vous avez lancé le lien, d'abord il s'ouvre en mode lecture. Il faut ensuite cliquer sur Edit Workbook ou l'équivalent en
Ah oui, alors
français.
je vais essayer de le faire. Attends, je vais essayer de le faire
Ouais,
ici.
montre-le.
Copie. Je vais le faire dans un in private parce que
Ton compte.
comme c'est mon compte, voilà. Donc j'ouvre le lien ici.
Ça.
Sans le 14h22. C'est un C?
Ouais.
C'est un C. Hop. Voilà. Ouf. Donc ça l'ouvre et ensuite ici il faut faire modifier dans le navigateur. Et du coup ça va le rouvrir en modification, en edit.
Ah, c'est bon, Samir a pu résoudre son problème avec ça. Philippe, c'est bon pour vous. Pas de soucis, Samir.
Bon, parfait. Ah oui, bon voilà, il y a 8 personnes. Y a quelques personnes sur le OneDrive. Parfait. Donc, pendant ce temps-là, donc on va passer. Alors déjà, est-ce que tous ceux qui ont besoin d'un compte Azure ont réussi à le créer? Sinon, dites-nous dans l'IM si vous avez. Si vous avez votre compte, donc Vincent, ok, parfait. Moutom aussi, Samir, impeccable. Alors, Philippe, oui, je vais vous donner un numéro. Alors, hop, je vais faire ça. Vous voulez quel numéro? Anyway. Alors, très bien, disons le 3. PL. Voilà, donc vous avez le 3. OK. Très bien. Alors, est-ce que VB a le 15? On va regarder. Hop, je regarde. Non, je le vois pas, il n'a pas été écrit, mais je vais. Alors, hop, voilà. C'est bon. Alors, PE pour le 7. Ok, on va faire comme ça aussi.
Non, le 7 est déjà pris.
Non. Si.
Ah pardon, je prenais le numéro de la ligne. Excusez-moi, autant pour
Ah, il y a Jonathan qui voulait le prendre, mais qui va aller en prendre un autre. Voilà.
moi.
Désolé. ALM pour le 12. Allons-y. Ah, zut. ALM. Très bien. Bon, s'il y a quelques demandes encore, Benjamin, tu peux les prendre?
Bien sûr, votre service.
Cool, merci. Alors, donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle VM. Alors, donc pour information, déjà, combien est-ce que ça coûte si vous êtes sur un compte gratuit, etc., pour savoir si combien de VM vous pouvez mettre dans l'après-midi sur votre compte gratuit, vous allez sur azure.microsoft.com. Et vous allez avoir une façon de, enfin, pour voir à peu près combien va vous, ça peut vous coûter, vous allez sur tarification calculatrice. Donc le lien, c'est azure.microsoft.com. Je le mets dans l'IM. Tarification calculatrice. Et regardez par exemple machine virtuelle. Donc là, ce que je vais vous faire créer, c'est une small, une medium, disons une medium pour du Windows en mode standard. Donc, hop, medium. Donc ça coûte 135 millièmes d'euros par heure. Donc ce qui fait que si vous la faites tourner toute l'après-midi, vous en aurez pour moins de 1 euro. Donc pensez bien à l'arrêter en fin d'après-midi, mais ça suffit pour avoir donc enfin pour faire tourner ça ou plusieurs machines virtuelles dans la journée sans problème, quoi. Donc ce qui est important, c'est de bien les arrêter en fin de journée si vous voulez pouvoir reprendre les exercices demain, par exemple, ou juste comme ça. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas trop sur le fait d'avoir plusieurs VM qui vont tourner dans l'après-midi. Il y a les 150 euros gratuits inclus dans un compte gratuit suffisent pour faire ça. Parfait. Donc on va créer une VM. Donc on va dans Compute, Virtual Machine, Quick Create. Et là, on va choisir une machine. Donc là, moi, j'ai le numéro dans tous les exemples. Là, j'ai pris le numéro 001 comme nom de domaine. Donc, je vais appeler ma VM, par exemple, VM Travail. Hop, 001. Ensuite, je vais choisir de la mettre en Windows Server 2012 R2 Data Center, enfin c'est la version par défaut. Et puis, je vais prendre une machine 2 cœurs, donc une A2 en standard. Ça pourrait être basique, mais bon. Voilà. Ensuite, je choisis un username. Donc là, bon, ça c'est mon username que j'utilise habituellement. Et puis un mot de passe. Donc il faut qu'il soit suffisamment complexe. Voilà. Donc très bien. Tac. Tac. Et puis un endroit. Donc tant qu'à faire, pas trop loin. North Europe, c'est pas mal là. Et puis voilà.
Les deux nouveaux data centers qui sont
Ouais.
apparus cette nuit sont déjà dans la liste.
Les deux nouveaux data centers, lesquels?
East US 2 et Central US.
Je crois que le East US 2, il est interne. Et
Non, ils sont sortis cette nuit.
ah bon? D'accord. J'ai pas su. Ça va trop vite. Ok. Et la seule chose que je suis en train de demander, c'est. Ah oui, et l'abonnement, bah c'est l'abonnement sur lequel je suis. Donc, parfait. Et je crée ma machine virtuelle. Ça va créer deux choses. Ça va créer un compte de stockage qui va s'appeler Portal Machin Chose. Donc là, ça devrait passer de 2 à 3. Et puis, ça va créer une VM. Enfin, ça va créer trois choses. Et un cloud service qui a le nom VM Travail 001. .cloudapp.net. Les DC ne sont pas visibles dans les subs. C'est-à-dire, Marius. Ah, dans mes subs, ok. Bon, ça peut dépendre de
Oui,
l'abonnement éventuellement.
ça arrive en ce moment, donc c'est compréhensible.
Enfin, si tu as North Europe, Marius, c'est bien North ou West Europe. Vous pouvez choisir l'un des deux, c'est bien. Donc voilà. Très bien. Donc, pendant que la VM se crée, on va continuer. Donc, et passer alors, au slide. Donc, il y a conclusion de la première partie. Et on va passer à la deuxième. Alors, j'arrête l'introduction. Hop, et on va passer sur la première slide du deuxième lab. Donc, les mains sur Azure ou dans Azure, je ne sais pas. Nginx, Varnish et WordPress. Donc, c'est une des démos que je vous ai faites le 24 juin. Et donc là, l'idée, c'est d'aller regarder les coulisses et de recréer cette démo from scratch. Donc dans les slides qu'il y a ici, que vous avez sur le OneDrive, vous avez les différentes étapes. Alors il n'y a pas forcément tout le détail exact des explications, mais le but, c'est de les passer en revue sur ce qu'on doit faire. Donc par exemple, si j'avance dans les slides, Vous allez avoir le nom de domaine, le PowerShell, comment est-ce que je crée la VM. Donc là, c'est ce qu'on a vu par exemple ensemble. Comment est-ce que je crée une VM. Donc là, dans l'exemple, j'avais fait une A0. Là, dans ce que je viens de vous montrer, c'est une A2. Ce qui est bien pour pouvoir avoir du Visual Studio, parce que je ne m'étais pas encore coordonné avec mes camarades. Et puis après, vous avez le détail, qu'est-ce qu'il faut faire, sauvegarder, le RDP, comment se connecter à la VM, etc., etc. Donc vous avez des instructions dans le PowerPoint, donc je vous engage à soit télécharger, soit aller regarder en ligne le PowerPoint pour suivre, puisque effectivement je vais être obligé d'aller à un rythme qui sera le mien, trop rapide ou trop lent suivant la vitesse à laquelle vous allez. Mais donc voilà, donc regardez dans les slides aussi, il y a des instructions sur ce qu'on fait, et ça vous permettra d'aller à votre rythme. Bon, donc ça, j'ai déjà vu et expliqué. C'est important aussi. Hop. Donc ça, c'est les slides du 24 juin. Donc, ils disaient, côté open source, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc Nginx, c'est un serveur web statique. Enfin, ça peut servir de serveur web statique, ça peut servir de reverse proxy. De moteur face CGI pour faire tourner par exemple du PHP ou des choses comme ça. Varnish, ça peut servir typiquement de reverse proxy et de cache en mémoire de contenu dynamique. Et Apache HTTP, c'est le serveur HTTP web, de Apache, en fait, enfin, édité par la Fondation Apache. Donc en fait, ce qu'on fait nous là, c'est qu'on remplace. Alors Apache, par exemple, ça a un intérêt sur des développements qui ont une dépendance par rapport à Apache parce que le développement prévoit ça, etc. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est creuser du WordPress. Et il se trouve que Azure Website permet de déployer du WordPress automatiquement. Donc en fait, on va plutôt s'appuyer, plutôt qu'Apache, sur du Azure Website en tant que service. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer Nginx Varnish, enfin, on va remplacer Apache PHP MySQL par Azure Websites. Contenant du WordPress, donc en PHP, sur du MySQL via le service CLEAR. Donc ça nous donne cette architecture-là sur laquelle on va revenir plus dans le détail. Donc, dans les différentes étapes, on va avoir nom de domaine, donc ça c'est fait. Environnement de développement, PowerShell, donc ça c'est en cours puisqu'on a créé. On a créé en fait une VM dans laquelle on va avoir du PowerShell et on va faire l'installation. Moi-même, je vais utiliser la VM de façon à vous montrer comment est-ce qu'on part de rien en fait, enfin, ou d'un Windows standard quoi, et comment est-ce qu'on peut créer son environnement. Et puis ensuite, on va voir ces différentes étapes, réseau virtuel, Azure Websites, Linux. Alors, on passera peut-être d'une étape à l'autre pendant qu'on sera en train d'attendre. Le challenge, c'est d'arriver à faire tout en 1 heure, c'est pas sûr. On va voir. Donc, nom de domaine, c'est bon, vous avez tous votre nom de domaine, c'est parfait. Environnement de développement PowerShell, donc soit vous êtes sur un Windows 7, je pense que c'est encore bon, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012, 2012 R2, tout ça doit être bon. Si vous avez des versions un peu trop anciennes de Windows, vous n'aurez peut-être pas la bonne version de PowerShell. Donc voilà. Et si vous avez un Mac, il y a peu de chances qu'il y ait PowerShell dessus, sauf si c'est un Mac qui fait tourner du Windows. Et donc voilà. Donc on a créé notre VM comme ça. Et donc voilà. On va voir où en est la création de ma VM de mon côté. Donc voilà. J'ai ma VM qui est ici, elle a été créée, et donc, alors, ce que je vous disais, c'est que ça a créé plusieurs choses. Ça a créé un compte de stockage qui s'appelle Portal Protocol, si je prononce bien, et dans ce portal, en fait, vous avez un conteneur qui contient des VHD, et en fait, dans les VHD, vous avez juste un VHD, plus un fichier status, et un VHD qui est le fichier, le virtual hard disk, en fait, contenant la VM en question. Ça a créé également une machine virtuelle, évidemment, puisque c'est ce qu'on cherchait à avoir, donc la VM Travail 0001. Et puis le cloud service qui expose VM Travail 0001, qui s'appelle là avec le même nom, donc VM Travail 0001.cloudapp.net. Donc voilà, donc et vous avez cette instance qu'on trouve ici. Très bien, donc si je reviens sur cette VM, maintenant je peux aller dans le dashboard et je peux me connecter à la VM. Donc comment est-ce que je fais ça? Alors soit je clique sur connect, et dans ce cas-là, ça va m'ouvrir. Alors je vais faire connect en fait, mais soit je fais open, soit ce que je préfère faire en général, c'est un save as. De façon à pouvoir mettre en fait mon fichier ici. Et l'avantage de faire ça, c'est que je vais pouvoir changer la résolution et puis changer une ou deux options qui sont utiles, entre autres avec Windows Server 2012 R2. Donc je vais faire un clic droit Edit. Donc ça, vous l'avez dans les. Il y a des copies d'écran dans les slides hein, qui montrent comment le faire. Donc clic droit Edit. Et ici. Je vais pouvoir changer un certain nombre de choses. Donc, mon username, c'est .anti/slash le username que j'ai choisi. Alors, je vais zoomer un peu. Ensuite, en display, moi, je vais me mettre en 1024 par 768. Alors, de votre côté, vous pouvez prendre une résolution un peu plus grande. En particulier, si vous voulez utiliser Visual Studio après, Visual Studio en 1024 par 768, c'est pas fun. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, autre chose importante en Windows Server 2012 R2, comme je ne vais pas être en plein écran, c'est de dire que les touches de type Windows sont sur le Remote Computer, parce que typiquement, le menu démarrer s'active avec la touche Windows. Donc, ça peut être important d'avoir ça comme ça. Une fois que j'ai tout ça, je peux retourner ici. Je peux dire que je peux sauvegarder mes clés d'identité ici. Et je fais un save, donc ça me resauvegarde mon fichier RDP avec les options que j'ai choisies. Et ensuite, je fais un connect. Parfait, je tape mon mot de passe, ou je le colle en l'occurrence. J'accepte les warnings. Ça m'ouvre une VM, enfin ça m'ouvre en remote desktop la VM en question. Voilà, un peu plus grande que mon écran, mais. Alors, j'ai une première question. Est-ce que je veux trouver les PC autour, etc. Non.
T'es tout seul de toute façon.
Vu que je suis tout seul,
Pour
ça n'a pas un
l'instant.
grand intérêt. Ensuite, vous avez le serveur manager qui est là. Donc voilà. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est mettre. Parce que là, j'ai pas la bonne résolution. Je vais changer d'outil juste pour. Parce que je suis en train de présenter et que j'ai besoin d'une résolution particulière. J'ai un outil qui me permet de faire ça. Alors, attendez. Alors, Non, je vais faire comme ça. Je vais changer comme ça. Je vais bien comme ça. Donc très bien. Hop. Donc là, vous allez dans local serveur. Et dans local serveur, comme on va avoir besoin de IE et qu'on va enlever une des fonctions qui sont faites surtout pour des serveurs, qui sont de dire que j'enlève le Enhanced Security Configuration et je le mets à off pour les administrateurs. Comme là, je suis connecté en tant qu'administrateur. C'est bon. Ok. Donc, ok, voilà. Ensuite, alors c'est bizarre, je vois Vincent depuis Chrome, parce que normalement le RDP, c'est juste le téléchargement d'un fichier .rdp. Hein. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison particulière.
Au pire, faut bien peut-être le sauvegarder pour
Ouais, il faut
plus
le
de risques.
télécharger normalement, hein, mais ça devrait suffire. Ouais, bah, ou faut peut-être essayer, je sais pas, peut-être avec Firefox ou j'en sais rien, mais normalement, on doit pouvoir le télécharger ou.
Ah oui, c'est juste un fichier ensuite qui est ouvert par le client RDP. Donc
Ouais,
il n'y a pas de relation avec le navigateur à part le download du fichier.
je suis étonné.
Donc si vous arrivez à downloader un fichier, ça devrait être suffisant.
Ouais. Donc là, le IE, je l'ai fermé. Parfait. Bah, on va pouvoir commencer. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, donc là, j'ai un add-on en fait dans ma VM qui me dit le nom de la VM, etc. Enfin bon, peu importe. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de télécharger le module pour Azure. Donc pour ça, je vais aller dans le IE de Windows. Ah, la VM n'est pas prête. Ok, donc je vais attendre un peu. Ah oui, si la VM n'est pas encore prête. Effectivement. Alors, ensuite, il faut aller dans IE. Et donc, dans IE, on va aller télécharger le module. Alors déjà, il y a des options par défaut, puisqu'on est dans un nouveau Windows. Donc, on va dire qu'on utilise les Recommended Security Settings. OK. Et que, on n'a pas besoin de ce message-là. Voilà. Donc, ce sont des options par défaut qu'il y a sur un serveur et qui ne sont pas utiles dans un mode client comme on l'utilise ici. Alors, ensuite, je vais sur azure.microsoft.com. Donc, ça, c'est le même lien que ce que vous aviez eu tout à l'heure. Voilà. Et dans azure.microsoft.com, je vais dans Downloads. Et dans le Downloads, je vais aller dans Command Line. Tools et j'installe la partie PowerShell. Donc en fait, PowerShell lui-même est déjà installé dans Windows. Ce que ça va installer, en fait, c'est surtout la partie module Azure, en fait. Donc ça démarre d'abord un Web Platform Installer et ensuite ça va installer la partie module Azure. Web Platform Installer. Parfait. Et puis, donc la version 0.8.4 qui date du 30 juin. Installe. Je lis tout. J'accepte. Et c'est parti.
Tu lis vachement vite.
Ah, je lis très très vite. Et ça télécharge normalement relativement rapidement puisque Azure est Internet, entre autres. Donc il est en plein dedans. Donc voilà. Donc 6 mégas par seconde par exemple, ce qui aide à des installations plus rapides. Et pour Visual Studio, en fait, vous pouvez télécharger une Visual Studio Ultimate en version d'évaluation, par exemple. Ça peut être pas mal. Donc vous allez dans un moteur de recherche et vous cherchez Download Visual Studio et normalement on doit vous proposer un Visual Studio Ultimate en version d'évaluation.
Ou peut-être visuotuyo.com, peut-être?
Peut-être visualstudio.com par exemple. Donc parfait. Pendant que ça s'installe, on va repasser au slide. Donc là, au niveau de mon portail, il me dit OK. Très bien. Alors repassons au slide. Donc, au niveau de l'architecture réseau, qu'est-ce qu'on va chercher à faire et qu'est-ce qu'on va exécuter? Donc là, on va avoir le nom de domaine que j'ai créé, c'est www.votrenumero.holl14.07.10. Donc ça, vous allez avoir à le taper deux, trois fois. Donc pour retenir, ça veut dire Enzone Labs 2014, juillet le 10. Et .34.fr, c'est le nom du domaine que j'ai. Donc voilà. C'est histoire d'ajouter des chiffres. Et à la fin, en fait, ça va pointer sur enzonelab14.07.10-votre-numéro.cloudapp.net, qui lui-même ira dans Nginx, qui ira dans Vernish, qui ira sur enzonelab14.07.10-votre-numéro.azurewebsites.net. Donc on va créer ça, on va créer ces différents éléments, etc. Voilà. Et de façon interne, on aura les adresses IP 10.3.1.11, 10.3.1.12, etc., etc. Parfait, donc on s'est connecté à la VM PowerShell, on a vu ça. On s'est mis en IE normal, et puis on est en train de faire l'install du module PowerShell. Alors, on va regarder où ça en est de mon côté.
S'il y a
Voilà.
des questions en attendant, n'hésitez pas.
Alors maintenant, donc je fais finish, exit, je ferme ça, hop, et voilà. Donc je suis dans ma VM. Donc, hop, et très bien. Donc là j'ai PowerShell. Donc si je fais un premier clic droit sur mon PowerShell, vous voyez que j'ai un menu relativement simple avec juste PowerShell ou Unpin this program. Donc là je vais l'ouvrir une première fois. Donc ça m'ouvre le PowerShell ici et ce que je vais faire c'est que je vais le fermer dans la foulée. de façon à pouvoir avoir une deuxième fois où là j'ai la deuxième partie du menu qui est apparue, c'est-à-dire que la première fois qu'il l'a activé, en fait, il a rajouté des tâches classiques qu'on peut avoir sur PowerShell. Donc ce qui va m'intéresser, c'est d'ouvrir Windows PowerShell ISE, donc qui est une sorte de mini Visual Studio pour ceux qui scriptent. Voilà, donc je crée ça. Et là, je peux créer un nouveau fichier. Donc, dans ce fichier, je vais pouvoir faire import module. Alors, en PowerShell, c'est toujours un verbe tiré un objet. Donc là, import module Azure. Retour chariot. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner juste cette ligne-là et je vais aller cliquer sur. Enfin, je vais aller, pardon, faire F8, la touche F8. Alors, il est en train de réfléchir. Bon, je ne sais pas pourquoi, il est en train de démarrer.
Bon.
Non, non, il n'est pas encore. Donc là, vous avez F8 ou alors ça, c'est-à-dire là, vous exécutez que la sélection. Vous n'exécutez pas tout, vous exécutez que la sélection. Bon, là, en l'occurrence, ce serait la même chose, mais bon. J'exécute que la sélection. Donc, vous pouvez faire ça ou alors vous pouvez sélectionner juste la ligne et faire F8 aussi. Alors, j'ai fait F9, F8 et donc ça réexécute. Bon, la même chose. Une fois que vous avez ça... quand vous avez importé votre module Azure, là vous pouvez aller chercher dans Azure et puis aller chercher par exemple des choses sur allez, HD Insight parce que on se refait pas. Donc là vous avez par exemple les commandes lettres correspondant à HD Insight. Si vous voulez avoir les commandes lettres correspondant à un compte, vous avez ces différents éléments, etc. Donc voilà. Parfait. Donc là ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter à notre environnement. Donc là je vais faire un add Azure account F8. Donc là, il va me demander de m'authentifier de façon à récupérer les comptes, enfin les abonnements Azure qui correspondent aux miens. Donc je vais dire que je me connecte en tant que benjamin34.fr. Donc là, il a reconnu que j'avais deux comptes benjamin34.fr, un compte d'organisation et un compte Microsoft. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser mon compte Microsoft. Alors, il faut quand même mon mot de passe. Ok. Hop. Parfait. Donc là, ça clignote pas mal parce que j'ai plusieurs abonnements, donc il va me créer les différents abonnements. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux faire un get Azure subscription. Alors, je peux faire, si je veux, contrôle espace pour et puis tabulation pour finir ma phrase. Et je vais faire un pipe out. Grid View F8. Et donc là, ce que ça fait, c'est que le Out Grid View, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre pour pouvoir voir les différents abonnements que j'ai. Donc là, en l'occurrence, j'utilise celui-ci, là, le APVX qui est ici. Donc très bien. Donc là, vous voyez, vous avez un script qui vous permet de... Enfin, normalement, si vous avez tout ça, c'est que vous êtes bien connecté à votre abonnement Azure, etc. Si c'est pas le cas, appelez Benjamin ou Stéphane au secours dans l'IM. Ils vous expliqueront comment avancer ou m'interrompront. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, copier des données. Alors, donc ça, on a vu. Hop. Donc vous avez ça. Donc maintenant, on va avancer, on va créer notre réseau virtuel, etc. Très bien, donc ce que vous devez faire d'abord, c'est copier les fichiers de OneDrive sur ces deux points. Donc vous pouvez aller dans le OneDrive, vous allez dans ce répertoire-là. Et dans ce répertoire-là, vous avez tout un tas de fichiers. Donc ce que je vous conseille à la limite, c'est de prendre tous les fichiers et de les copier sur votre machine virtuelle. Alors comment est-ce que vous pouvez faire ça? Soit vous allez dans le OneDrive depuis votre machine virtuelle, c'est un premier moyen. Soit vous sélectionnez tout ici. Et puis vous faites download. Donc là, ça va vous faire un zip que vous allez sauvegarder sur votre PC. Donc là, je le sauvegarde ici. Ensuite, sur ce fichier-là, ce zip-là, vous allez faire un copier. Donc copy. Donc là, ça vous montre comment copier aussi, par exemple, dans une VM Azure directement depuis votre poste de travail. Et vous allez dans votre remote desktop qui est là. Vous allez dans votre C de point et vous faites coller. Et donc ça va aller copier le fichier via RDP, le Remote Desktop Protocol. Voilà. Et puis, alors, si on veut voir que c'est un zip, on peut aller dans View, ici, cliquer sur File Name Extensions. Donc, très bien. Et puis, là, je vais extraire tout ça à la racine. Comme c'est une VM, j'en ai un peu rien à faire de mettre du bazar dessus. Hop. Tout sur ces deux points, les best practices en action,
Bien sûr.
à la racine. Comme ça, c'est plus facile après. Parfait. Donc, on a notre bazar ici, prêt à être utilisé. Donc, en gros, les fichiers, enfin ceux-là plus les autres, hop, sur votre VM ou sur votre machine locale, hein, si vous n'êtes pas dans une VM. Et sur ces deux points, vous pouvez le mettre évidemment à un autre endroit. Moi, je vais faire référence après à ces deux points anti-slash, mais voilà. Et puis après, ben, on va aller exécuter le point PS1 après avoir changé les paramètres. Donc, le point PS1, il est ben, dans ces deux points, forcément. Donc, c'est service frontal.ps1. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites clic droit, Edit. Et dans ce cas-là, ça va vous l'ouvrir dans votre PowerShell ISE directement. Voilà. Donc là, vous avez tout et vous avez le script qui va vous créer à peu près tout. Alors, comment est-ce que ça s'utilise? Alors, d'abord, avant de le lancer, surtout, vous ne cliquez pas sur je balance tout direct. Vous avez un certain nombre de paramètres à changer, comme par exemple mettre votre propre mot de passe, aller mettre le numéro, enfin là, au lieu de mettre 001, aller créer un compte, un autre compte, enfin un autre numéro, etc. Donc, très bien. Et puis, qu'est-ce que vous avez d'autre à modifier? Enfin, bon, un certain nombre. De toute façon, on va l'exécuter par étapes, hein, bien avec F8 et pas. Voilà. Donc là, moi, j'allais mettre mon propre mot de passe. Tout, tout, tout. Hop. Qu'est-ce que je vais utiliser comme mot de passe? J'en ai là. Voilà. Ensuite, moi j'utilise bien 001, mais vous, vous devez changer, parce qu'autrement je serais bloqué. Même chose pour le nom du service, donc AnsonLab 140710- votre numéro. Et puis ensuite, my user, donc là moi j'utilise plutôt Benjeline. Et puis voilà, donc normalement vous avez à peu près ce qu'il faut. Donc pour faire ça, ensuite vous allez. Alors vous n'avez pas besoin de réexécuter un porte module Azure et Add Azure Account parce que vous l'avez déjà fait tout à l'heure dans la même session PowerShell ISE. Vous sélectionnez ces différents éléments. Et puis, par exemple, vous exécutez tout ça. Donc vous sélectionnez, vous faites F8 ou vous exécutez cette partie-là. Donc là, par exemple, le subscription, par défaut, il prend le premier abonnement que vous avez. Après vous avoir montré la liste des abonnements que vous avez ici. Donc normalement, enfin, dans les cas classiques, vous en avez qu'un. Et si vous voulez regarder quel est le nom de la variable, par exemple, vous pouvez sélectionner juste $subscription. Ensuite, vous faites F8 et vous voyez que c'est le compte APVX. Ah, il y a besoin de l'URL de OneDrive.
Je m'en occupe.
Parfait. Donc là, mon abonnement, c'est APVX. Alors, si on veut, on peut aussi, par exemple, plutôt que de dire je prends l'abonnement 0, je vais le dire ici, je dis bah, je prends APVX, c'est le nom de mon abonnement que je mets en dur ici. Si vous voulez réexécuter juste cette ligne-là, F8, et voilà. Parfait. Donc ensuite, je passe. Alors, je vais peut-être mettre en plus gros ici. Voilà. Donc ensuite, je vais enlever cette partie là. Hop. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ça, select Azure Subscription moins current F8. Voilà, j'exécute ça. Ensuite, ça c'est en commentaire. Alors c'est parce que si vous avez déjà un abonnement avec de la configuration réseau, il faut que vous l'exécutiez. Donc vous enlevez le commentaire et vous faites F8 aussi. Hop, et ça va vous créer un fichier dans ces deux points qui s'appelle vnetconfig.xml. Alors j'ai peur d'avoir écrasé celui que j'avais, puisque en fait par défaut il est là, donc peut-être le mettre à un autre endroit. Bref, ce qui est important, c'est d'avoir ici, alors si je regarde mon vnetconfig.xml, ici. Non, c'est bon, je ne l'ai pas écrasé parce qu'en fait, j'avais rien dedans. L'idée, c'est que en fait, vous allez exporter la configuration de votre réseau si vous en avez déjà une pour votre abonnement. Ensuite, vous allez la modifier pour rajouter dedans. Donc, il faut que vous fassiez un merge entre le fichier VNet config qui vous a été fourni via le c'est un abonnement dans lequel j'ai rien du tout et donc je vais utiliser cette configuration-là. Plus de son. Ah, back, c'est peut-être que je parlais plus. Non, je sais pas. Ok, donc parfait. Hop. Alors, donc je reviens à mon PowerShell ISE. Très bien. Donc en fait, ensuite, je vais créer un nouveau compte de stockage et sur lequel je ne vais pas mettre de géoréplication. Donc F8. Hop. Donc là, ça va créer. Donc là, ça va me permettre de voir s'il y a quelqu'un qui a créé le compte de stockage avec le 001 à ma place. Sinon, ça devrait bien se passer. Donc ça va créer. On peut le voir dans le portail. Hein. Hop, voilà. Ici, ça devrait créer un autre compte de stockage, voilà, qui est en cours de création, là, qui s'appelle EnzyneLab 140710 Storage 001. Donc, dans votre cas, ça va être 002, 003, etc. Parfait. Ensuite, pause, ben ça, c'est quand on l'exécute d'un seul coup où il demande d'attendre. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'attendre que le compte de stockage ait été créé si vous l'exécutez tout à la suite après. Ce que vous pouvez faire en parallèle quand même, c'est le set Azure VNet config, voilà, F8, qui lui va avoir pour effet de créer un virtual network. Donc c'est en gros les adresses IP dont on avait besoin tout à l'heure. Donc là, ça va créer un virtual network ici. Donc si on fait un refresh à cet endroit-là, ça va nous créer notre virtual network. Parfait, VNet 3 a été créé avec dedans, si je vais dans Configure par exemple, je dois avoir voilà, les 10.3.0.0 avec un subnet qui est à 10.3.1.0 et donc c'est là où on va pouvoir mettre nos VM. Je vous rappelle en fait la configuration réseau qu'on va avoir. Hop, si je la retrouve. Voilà, donc c'est bien 10.3.1 dont on va avoir besoin. Parfait. Donc, une fois qu'on a créé notre compte de stockage, on va pouvoir continuer. Donc, on en est à cette étape-là. Donc, notre VNet a été créé. Notre compte de stockage, on va vérifier dans le portail s'il est bien fini de créer. Mais normalement, ça prend quelques secondes. Donc là, c'est bon. J'ai bien mon compte de stockage qui est online. Et donc, je vais pouvoir exécuter le reste. Donc, pour exécuter le reste, je sélectionne tout le reste. Hop. Et F8. Donc, qu'est-ce que ça crée tout ça? Alors, tout. Ça crée les différentes VM. Alors déjà, ça crée le service, le cloud service. Donc, dans mon cas, EnzyneLab 140710-001. Ça va le mettre en North Europe et puis ensuite ça va créer mes deux VM qui vont servir pour Nginx. Ça va me créer donc dans les adresses 10.3.1.11 et 10.3.1.12 et ça va me créer également mes deux VM Varnish, même chose en 10.3.1.20 et 10.3.1.21. Et ensuite, ça va effectivement. Donc ça, c'est la configuration des VM. Après tout ça, donc j'ai le format table de ma collection de VM à créer. Ensuite, ça va créer effectivement ces VM-là. Donc ça prend un certain temps. Et puis ensuite, on va aller créer l'internal load balancer. Donc l'internal load balancer, c'est ce qui va faire load balancer de Nginx vers Varnish. Donc avec une adresse IP virtuelle 10.3.1.20 qui est ici. Ok, ensuite, donc ça nous crée, et puis ça va faire pointer les deux VM Varnish vers ce load balancer là. Voilà, donc là, les nuits Azure VM, ça a marché. Et puis ensuite, il va aller faire le load balancer. Et voilà. Parfait. Donc une fois que ce sera fini, on aura un beau truc comme ça. Et voilà. Donc en parallèle, ce qu'on va faire, c'est que si on veut avoir le temps de terminer dans la demi-heure, on va aller créer un Azure Website avec WordPress. Donc rappel, vous vous souvenez de votre numéro de nom de domaine, dans mon cas 001, et vous allez créer un Azure Website depuis la galerie. Donc, allons-y. Je vais dans le portail donc, où j'ai le script qui est en train de se dérouler et je vais dans Compute Websites from Gallery. OK. Ici, je vais aller dans les CMS. Et dans les CMS, j'ai entre autres WordPress. Donc, je ne prends pas le Japanese Pack, hein, le Japanese Package. Je prends le WordPress normal. Ensuite, je vais donner un nom. Alors, c'est là où c'est très important de prendre exactement le nom qui vous a été assigné. Donc, si je prends ici, je remets le nom. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc le nom, ça doit être Enzon Lab. Donc je vais taper dans l'IM. Enzon Lab 140710- et je mets dans le Enzon hop, tiret 999. Donc évidemment, vous remplacez le 999 par votre nom à vous. Donc ce sera Enzon Lab 140710-999. Voilà. Donc je le fais pour ce qui me concerne moi. Enzon Lab 140710-001, donc qui est disponible, et je vais créer une nouvelle MySQL database dans un new web hosting plan en North Europe. Deployment settings, tout ça n'a pas d'importance. En l'occurrence, je peux laisser les valeurs par défaut. Donc, create a new MySQL database. Hein. Ensuite, je choisis un nom de MySQL database. Donc, vous pouvez l'appeler Enzon Lab 1407 10 X001. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, en fait. Hein, ce n'est pas très important, ça. Je suis d'accord avec les conditions de ClearDB que j'ai lues à toute vitesse à nouveau. OK. Donc ça va me créer mon website Azure avec le template WordPress dedans. En parallèle, je peux aller jeter un œil sur mon PowerShell. Visiblement, les choses se passent pas trop mal. Donc on va attendre plutôt l'Azure Website parce qu'a priori il mettra moins de temps que les différentes VM à se créer. Et ça vient du fait que dans Azure Website, en fait, on s'appuie sur des VM qui sont déjà disponibles et déjà démarrées, donc en fait des VM standards. Et voilà, alors que dans le cas des VM, en fait, on crée et on boot une VM from scratch. Donc voilà. Creating, une blague? Vous avez une blague, non? Non, pas de blague.
Ça, je trouve ça va être difficile d'improviser.
Peut-on lier un Azure Website avec une base de données MySQL sur une VM dans Azure? Oui, a priori, il suffit de rajouter. Alors, il faut créer le website sans MySQL et puis ensuite le rajouter comme une liaison. En revanche, peut-être que l'expérience sur le. Alors, ce que je ferai dans le cas de la template galerie, là, c'est que j'irai peut-être dans le Azure Website qui est ici et puis ensuite dans les linked ressources, j'irai rajouter la chaîne de connexion de mon MySQL qui est dans ma VM, et après le template, il est possible qu'il en tienne compte. Mais j'en suis pas absolument sûr. À voir. Donc là, j'ai effectivement mon template, et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est enfin, terminer l'intégration de mon WordPress. Donc pour faire ça, je vais sur l'URL. Donc pour accéder à l'URL, donc c'est ce nom-là. .azurewebsites.net que vous pourrez retrouver dans donc vous allez dans Website, Vous retrouvez votre website, ensuite vous allez sur la petite flèche qui est ici, ensuite vous allez dans le dashboard, et dans le dashboard, vous avez l'URL du site sur laquelle vous pouvez cliquer, ça va vous ouvrir un nouvel onglet, et dans ce nouvel onglet, on va vous demander de configurer WordPress en un nombre d'étapes qui est ridiculement faible. Donc, exemple de site WordPress, vous pouvez l'appeler autrement, hein, si vous avez quelque chose de plus intelligent à mettre. C'est bien aussi. Ensuite, le username qui va vous servir d'admin. Le mot de passe. Donc, je vais reprendre un mot de passe. Hop. Voilà. Coller votre email. Donc, par exemple, 12@34.fr. Et puis ensuite, alors vous ne mettez pas Hello Search Engine to an Exist Site en l'occurrence, sauf si vous voulez mettre des choses absolument passionnantes dessus, mais enfin, bon, a priori, ce n'est pas forcément ce que vous allez chercher à faire. Et puis, install WordPress. Donc, voilà, et puis à partir de là, ben, je peux aller me connecter sur mon WordPress. Donc, je me reconnecte avec mon username, mon mot de passe, remember me, login. Yes. Et voilà, je suis dans l'administration de mon website. Alors, c'est là où le custom domain intervient, parce qu'en fait, à un moment, on va accéder. Alors, si je vous remontre les slides, alors je vais aller là. À un moment. Je retrouve la bonne slide, attendez. Voilà. À un moment, on va accéder avec www.999.enzonelab140710.34.fr à website. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on donne ce nom de domaine-là qui correspond à website. Puisqu'en fait, toute la couche va traverser comme ça. Et on ne peut pas garder ce nom-là, puisqu'en fait, ce vers quoi on veut aller, c'est le Nginx. Ce n'est pas le website lui-même, en fait. Donc à la fois, le website devra être accédé avec un nom de domaine spécifique et en même temps, ce nom de domaine spécifique ne devra pas pointer sur le website, mais sur le Nginx. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un nom de domaine spécifique. Donc ce qu'on va faire dans une première étape, c'est faire pointer ce nom de domaine-là sur Azure Website. Donc là, pour l'instant, moi, dans mon domaine 3.4, j'ai fait pointer ça sur le nom correspondant ici, de façon à ce que la vérification puisse se passer correctement. Et après, ce qu'on fera, c'est que quand on voudra tester, on le fera avec un host, de façon à ce que je n'ai pas à changer le nom de domaine pour tout le monde, parce qu'il faudrait le faire exactement au même moment, etc. Donc en changeant le TC host sur votre poste client, vous allez pouvoir accéder à ce load balancer là. Très bien, donc on y va. Ici, je vais dans... alors d'abord, je vais dans Scale, parce que les noms de domaine spécifiques ne sont pas disponibles dans le mode gratuit. Il faut au minimum être en version shared. Donc je passe dans le mode shared qui coûte à peu près 8-9 dollars par mois.
Pas grand chose de dollars par mois.
Ouais. Des dollars qui se comptent sur les doigts de la main, en tout cas en euros. Voilà. Et puis ensuite, je vais dans configure. Et dans configure, je vais pouvoir aller sur domain names et je vais faire manage domains. Et c'est là où je vais lui dire, en fait, moi, je veux y accéder par www.001.enzonelabs140710.34.fr. Tabulation. Et normalement, ça doit vous dire OK si vous avez bien pris le bon nom ici. Donc, je vous le retape dans l'IM. C'est www123. Donc là, vous changez le 999. .enzonelab140710.34.fr. OK. Et donc là, vous faites OK. Et du coup, vous pouvez accéder à votre website avec ce nouveau nom aussi. Alors, ce nouveau nom, vous pouvez copier-coller aussi ici, le copier, parce qu'il va falloir prévenir WordPress aussi que c'est ce nom-là que vous voulez mettre. Donc, vous allez dans WordPress. Et dans WordPress, vous allez dans Settings. Et là, vous remplacez le nom Azure Websites qui est là par le nom de domaine, donc HTTP, /, et vous mettez dans les deux cases ici, vous mettez exactement ce nom de domaine là. OK. Alors, tu m'interromps si j'ai des questions. Voilà.
Rien que nous puissions gérer pour l'instant.
Quoi ?
Tout va bien. On
tout
n'a
va
pas
bien.
Répondre pour l'instant.
Okay.
On te demandera.
Donc là, il me renvoie sur www.001-nzonlab14071034.fr. Et là, je retape mon username et mon mot de passe. Hop. Tac. Dormi. Login. Yes. Et donc là, je dois me retrouver dans mon WordPress, mais avec mon nom de domaine spécifique. Et si je vais pas dans wp-admin, mais à la racine, je dois pouvoir avoir mon site WordPress magnifique, le Hello World, que j'ai par défaut. Formidable. Donc maintenant, on va aller rajouter le Nginx et le Varnish en amont. Fort bien, donc moi, mes VM sont toutes créées et tout est terminé ici. Donc, on va enchaîner. Alors, je regarde où est-ce qu'on en est dans les slides. Hop, hop, hop. Donc, le WordPress, ce qu'on a fait, c'est que on a créé un website from gallery WordPress. On lui a donné un nom. Voilà. Login, scale, shared. Manage domain, le nouveau nom, et voilà. On en arrive à Linux. Donc on va d'abord créer un environnement, on va d'abord avoir un client Linux pour Windows qui s'appelle PuTTY, qu'on va ajouter dans notre VM. Alors, hop, où est-ce que j'en suis? Là. Hop. Parfait. Donc je vais dans un navigateur, hop, je vais essayer d'avoir tout dans la même fenêtre, au même niveau, parfait, et donc là, Bing, et je tape download PuTTY. Donc là, le deuxième nom de domaine, là, le sharkgreenend.org.uk slash machin chose, donc stag am qui est sans doute l'auteur, slash PuTTY slash download, c'est le bon, non. Et dedans, je vais télécharger la version complète avec le MSI, etc. Donc, je vais dans binaries. Donc latest version, et je vais prendre Windows Installer, donc celui-ci, PuTTY063installer.exe, run, next, 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 install, finish, je vais pas lire le readme. Et voilà, donc après j'ai un PuTTY qui est disponible dans C, Program Files x86 et PuTTY. Donc dedans, vous avez plusieurs choses qui vont nous servir. Il y a le PSCP qui permet de faire des copies. Donc PuTTY pour le S, je ne sais pas si SSH copy. Et PuTTY qui va me permettre de me connecter en SSH sur mes VM. Alors, je repasse au slide. Hop. Donc j'ai installé PuTTY. Parfait. Maintenant, je vais aller voir mes VM qui ont été créées. Alors, hop. Donc, les VM, je vais les retrouver ici. Où est-ce que c'est virtuel? Pardon, je vais dans Cloud Service. Dans Cloud Service, alors, je vais rafraîchir parce que visiblement, je n'ai pas la bonne version des. Éventuellement, on peut y avoir besoin de rafraîchir le portail. Voilà, donc j'ai eu mon Hands-on Lab 14.07.10.001 qui est ici. Là, je peux aller dans Instance, et dans Instance, je devrais voir normalement mes 4 VM, les 2 Nginx et les 2 Varnish que j'ai ici. Et entre autres, alors vous pouvez le voir dans le script ou dans la VM, vous pouvez voir aussi par quel endpoint vous pouvez vous connecter. Donc par exemple là, sur la Nginx, elle a un port 80 sur sa web farm, donc c'est par là qu'on accédera à l'ensemble du site à la fin. Et puis, j'ai également la partie SSH, donc j'ai les ports 12101 Si on regarde la Nginx 2, elle est sur le port 1202, la Varnish 1 est sur 12201 et la Varnish 2 sur 12202. Et donc ça, c'est pour le SSH, c'est-à-dire l'équivalent du remote desktop mode pour des VM Linux. Donc parfait. Donc c'est ce qui est rappelé ici. Donc en fait, sur le schéma, ça donne ça. Le port SSH à utiliser pour PuTTY, c'est 1201, 1202 pour ces deux VM, 12201 et 12202 pour ces autres VM. Donc on va se connecter en PuTTY avec sur ces différentes VM. Donc quel est le username et le password? C'est ceux que vous allez retrouver dans votre script. Donc votre username et votre password à mettre dans votre VM PuTTY. Très bien. Donc pour se connecter, on va aller ici. On va double-cliquer sur PuTTY. Ici, le nom que vous allez utiliser, c'est le nom du cloudapp.net, donc 14.07.10, en l'occurrence 001.cloudapp.net sur le port 12.101. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire une sauvegarde, par exemple, de ça, nzonlab 14.07.10.001.cloudapp.net. Vous pouvez choisir aussi d'avoir une fenêtre plus grande, etc. Enfin, tout ça, vous pouvez le faire ici. Donc là, vous allez dire, je sais pas, que ça s'appelle nzonlab 14.07.10. Vous pouvez faire ça, ça c'est facultatif, hein, ça vous évite de le retaper quand vous allez vous connecter n fois. Donc là, vous vous connectez. Open, donc là il dit qu'il ne connaît pas la machine encore, donc vous dites OK, c'est la bonne. Ensuite, vous connectez avec votre username. Et pour le mot de passe, si vous voulez le coller, vous pouvez faire un clic droit dans cette fenêtre. Donc là, je copie mon mot de passe et ensuite je vais pouvoir faire un clic droit ici. Il n'apparaît pas, entrer. Et je vais pouvoir me connecter. Donc là, je vais être sur la première VM. Et puis, même chose, je vais me connecter aux autres machines. Donc je rouvre un PuTTY, je recharge ça, et puis je vais échanger. Donc 1201, je vais me connecter sur la 1202 aussi. Open, même chose, yes. Alors évidemment, quand on a plein 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 de VM, on a d'autres moyens de faire, hein. On peut faire des scripts qui se connectent sur les différentes VM. Là, j'en ai quatre, donc je vais pouvoir le faire directement. Puis, hop, load 12201. Open. Yes. Hop, le mot de passe. Voilà, et la dernière, la 12202. Load 12202, open. Yes. Et donc ainsi, je serai connecté aux 4 VM. Alors vous verrez qu'en plus, le SSH s'adapte là, il vous donne directement le nom des VM sur lesquelles vous êtes connecté, avec quel username. Donc là, vous avez Nginx, Varnish, etc. Alors vous allez constater que vous avez dans votre disque C, à la racine, vous avez un certain nombre de commandes Nginx et Varnish. Donc vous avez le Nginx Linux commands qui est ici, et vous avez le Nginx et le Varnish Linux commands qui sont ici. Donc ça, ce sont les commandes que vous allez taper, enfin les différentes instructions à suivre pour installer vos différentes VM. Mais avant ça, il va falloir aller configurer. Il va falloir changer la configuration des fichiers. Donc vous avez besoin de changer la configuration du Varnish et la configuration du Nginx. Pour faire ça, vous allez devoir le faire avec Write. Donc depuis, dans votre fenêtre, là, vous pouvez. Alors vous retournez sur le desktop. Vous faites Windows R et vous tapez Write. Ce qui va vous ouvrir WordPad. Et à partir de WordPad, alors je vous le dis de le faire dans WordPad et pas dans Notepad parce que vous avez des retours à la ligne Linux et non pas Windows. Donc là, vous pouvez aller dans ces deux points, étoile, point, étoile. Et vous allez modifier par exemple le MyVarnishConfig Donc là-dedans, vous allez avoir à modifier le numéro. Ici, moi, en l'occurrence, c'est 001. Voilà. Et c'est tout, je crois. Il y a juste ça à changer. Donc là, vous sauvegardez. Et puis, l'autre fichier qui est le Nginx Virtual Conf. Donc là, sur le port 80. Et là, même chose, vous remplacez votre 999 par le numéro. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est le 001. Tout le reste est équivalent et le même pour tout le monde. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, donc je vais ouvrir ces deux fichiers-là qui vont me dire quoi faire. Donc Nginx et Varnish. Donc je vais les faire en parallèle parce que on va être un peu short en temps autrement. Alors j'ai un certain nombre de PSCP à faire, c'est-à-dire de co pour copier les fichiers sur mes différentes VM. Donc là, en l'occurrence, pour remplacer my user, alors je vais faire ça dans un nouveau Notepad, par exemple, ou je vais le faire directement ici. Donc là, je vais remplacer my user par mon user à moi. Donc là, c'était Benjamin. Find next. Alors, replace. Hop, 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 hop. OK. Je vais avoir à changer également, a priori, mon mot de passe. Donc là, ce mot de passe-là, hop là, CTRL-C, CTRL-H. Donc je vais remplacer le mot de passe par mon mot de passe en. Alors, hop. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est ça. Ok, donc replace. Ok. Et a priori, j'ai ce qu'il faut. Non, c'est les 999 aussi qu'il faut que je remplace. Hop. CTRL-H, 999 par 001 dans mon cas. Next. Replace. Replace. Okay. Voilà. Et donc ça, je vais les exécuter dans un PowerShell par exemple. Donc là, j'exécute un PowerShell. Je vais à l'endroit où il y a Putty en fait. Donc dans CD Program Files x86, CD Putty. Voilà, et je colle les différentes lignes de commande. Donc, edit, paste. Faut que je les copie d'abord, peut-être. Copie. Et clic droit pour faire le paste. Donc là, ça va aller copier dans les différentes VM, en fait, les différents fichiers dont j'ai besoin. Donc là, en l'occurrence, ça va aller copier sur les Nginx mes fichiers JPEG et également les fichiers de config. Je vais faire la même chose pour la partie Varnish. Là, il faut que je remplace aussi à chaque fois. Donc, hop, my user, hop. Par margin, replace. Ok, ensuite je vais remplacer le 999 par 001. Next, replace. Ok, le mot de passe. C'est pas la partie la plus passionnante du lab, hein, mais. Hop. Voilà. Il est 27. Je sais pas si on va avoir. On devrait avoir le temps de finir à peu près. Replace. Find next. Find next. Replace, replace. Voilà. Est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut? Hop. Ouais, normalement, c'est bon. Et je vais aller copier ces deux fichiers-là. CTRL-C. Ah, alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu? J'ai peut-être pas mis le bon mot de passe. C'est pourtant, alors c'est peut-être pas la bonne. Hop. 12-200 et 12-202 pour voir en niche, c'est bon normalement. Ah oui, c'est pour celui-là, pardon. J'ai pas remplacé le ici. J'ai mis my user sans remplacer, donc c'est bon. Hop, allons-y. Juste là. Ah oui, j'ai mis un. J'ai oublié de mettre un espace ici. Je vais y arriver. Voilà. Donc j'ai mes fichiers qui ont été copiés. Et puis, alors maintenant, je vais aller sur mes machines Nginx. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter. Je peux exécuter tout ça, par exemple, sur la partie Nginx. Donc, je copie ici. Ensuite, je vais sur la première machine Nginx et je fais un clic droit. Donc, ça exécute un certain nombre de commandes, hein, les unes après les autres. Tac. Et je vais pouvoir faire la même chose sur le Nginx 2. Hop, je colle aussi, je fais un clic droit et ça colle le contenu des commandes. Alors, est-ce que je veux continuer ici? Yes, donc là je mets la chose par défaut, alors zut. Ouais. C'était quoi le... Ouais, zut. Alors, pardon, faut faire la première ligne à part en fait, pardon. Et ensuite le reste, ça devrait être bon. L'idéal c'est de le faire ligne par ligne, hein, mais. Alors, la première ligne d'abord. Voilà, après le sudo apt-get. Installe deuxième ligne. On va le faire doucement. Je crois que les deux premières doivent être faites indépendamment. Voilà. Hop. Ensuite, même chose. Donc ça installe Nginx à partir d'un repository. Et après, on va arrêter Nginx, copier la config, etc. Et démarrer Nginx. Hop. Donc pendant qu'il est en train de faire ça, on va passer à Varnish. Donc sur Varnish, c'est le même principe. Encore quelques minutes, hein, ça devrait être bon. Je suis un peu en retard, désolé. Oui, mais... aussi. Varnish, donc Varnish, tac tac tac. On va faire l'apt-get update, donc les trois premières lignes en fait, sur le Varnish 1. Hop. Et sur le Varnish 2. Voilà, done des deux côtés. Ensuite, on va faire un sudo apt-get Install Varnish. Hop, sur le Varnish 1 et le Varnish 2. Hop. Ouf. Le Varnish 2. Do you want to continue? Yes. Yes. Ensuite, pendant ce temps-là, on repasse à nos Nginx. Donc là, sur la partie Nginx, je sais plus ce que j'avais exécuté en dernier, le install. Donc là, je vais prendre la suite. Hop, copie. Sur le Nginx 1, hop. Voilà, et sur le Nginx 2, ouf. Parfait. Ensuite, le varnish. Alors après, il faut effectivement aller modifier dans le varnish le... Une fois qu'il aura été installé, on va faire un stop et un VI. Du varnish pour lui dire en fait qu'on ne veut pas utiliser default.vcl mais myvarnishconfig.vcl et ensuite on va aller copier ce fichier de config. Alors allons-y, varnish 2 et varnish 1. Voilà, alors dedans, vous pouvez vous déplacer avec les flèches. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer default.vcl, donc la configuration par défaut, par myvarnishconfig, en fait, qui est là. Donc ici, vous pouvez faire CW comme change word. Et ensuite, coller, escape, 2.wq comme write et quit. Voilà, ici même chose, on se déplace. Alors, on aurait pu faire un sed aussi hein, pour... Hop, ici, change word, paste. Escape 2.wq. Voilà, donc sur les varnishes, on a fait ce remplacement. Et puis après, on n'a plus qu'à exécuter les dernières commandes sur les deux. Hop. Stack. Et stack. Voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on va vérifier ça? On va ouvrir en tant qu'administrateur un PowerShell et on va aller modifier le fichier host pour pouvoir pointer sur avec notre nom de domaine original sur le cloudapp.net. Donc on va dans Notepad C Windows System 32 Drivers etc hosts oops, point. Donc ça je peux vous le taper ici. Notepad C Windows System 32 drivers etc. Hosts. Voilà. Donc il faut être dans un PowerShell administrateur pour faire ça. Voilà. Et là, je vais taper l'adresse IP de mon cloudapp.net. Alors, où est-ce que je la récupère, cette adresse IP du cloudapp.net? Donc, je vais dans Cloud Services. Là, j'ai mon Enzone Lab 14.07.01. Je vais dans Dashboard. Dans le Dashboard, je vais avoir l'adresse IP. Alors, en vrai, en fait, ce qu'on ferait, c'est qu'on utiliserait plutôt un CNAME vers le nom. Mais là, comme vous n'avez pas accès au nom de domaine. Hop, voilà. Et vous la mettez ici. Et vous dites, tabulation, que ça correspond à www. Votre numéro, point, enzonlib 14.07.10, donc qui est le nom de domaine reconnu par Azure Websites, point 34.fr. Voilà. Save. Et donc, ensuite, vous allez dans le navigateur et vous devez pouvoir taper W001 .endzonelab14.07.10.34.fr/nuage, par exemple. Donc ça, ça a pointé sur Varnish, pardon, sur Nginx, avec le fichier. Donc là, c'est le fichier pabo.jpg qui est exposé en tant que fichier statique. Si vous allez dans beau.jpg, vous avez le même avec du beau temps. Et si vous mettez rien du tout ici, vous allez avoir accès à votre WordPress qui est exposé dans votre Azure Websites à travers Nginx et Varnish, en passant par l'Internet Load Balancing, etc. Donc, j'ai terminé avec 8 minutes de retard, mais normalement, vous avez tout. J'espère que certains d'entre vous ont réussi à le faire. Et puis, j'espère surtout que ceux qui n'ont pas réussi à le faire en même temps que moi, on puisse effectivement le refaire à partir de PowerPoint ou continuer lentement et reprendre ça à tête reposée. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à contacter Laura qui nous les fera suivre et qui nous fera suivre les choses. Trop rapide,
Ouais,
oui,
forcément, ça prend du temps.
j'avoue que j'ai été un peu rapide en fait pour le faire à la fin. Normalement, j'ai tout mis dans le PowerPoint avec les copies d'écran, etc. Et ça devrait vous permettre de l'exécuter par vous-même. Alors pour avoir les diapos, c'est dans le OneDrive, hein. Donc le OneDrive, on a donné le lien, je vais le retrouver.
Le début du chat.
Et le début du chat, sinon je vais essayer de le retrouver. Hop. Ah zut, j'ai encore mis un truc énorme. Je vais mettre en plus petit. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est là où vous avez le drive avec tout ce que vous voulez. Très bien, je vais passer la main à Stéphane, tu veux l'écran?
Oui, peut-être, oui.